Au cœur de la foi, la nature et le caractère de Dieu. L'omniscience de Dieu, première partie, par Peter Amsterdam. Parce que Dieu est l'être infini et suprême, sa connaissance est illimitée. Il sait absolument tout. La terminologie théologique commune est l'omniscience, qui vient du latin omni, qui signifie tout, et science, qui signifie connaissance. L'Écriture nous dit que la connaissance de Dieu est la connaissance parfaite. Il sait tout. Sais-tu comment les nuages se tiennent en équilibre? Ce sont les actes merveilleux de celui qui connaît tout parfaitement. Job 37, 16. En effet, même si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. 1 Jean 3, 20. La connaissance infinie et innée de Dieu. Dieu est différent de nous, et en tant que tel, la nature de sa connaissance est différente de la nôtre. Il sait tout par nature. Ses connaissances ne s'acquièrent pas, elles ne proviennent pas de sources extérieures, ni de l'observation, ni de l'expérience, ni du raisonnement. Dieu n'apprend pas parce qu'il sait tout. La Bible demande si quelqu'un enseignera Dieu ou s'il a besoin d'un conseiller. C'est une question rhétorique et la réponse implicite est qu'il n'a pas besoin de conseiller ni d'enseignant. Son savoir est infini. Est-ce à Dieu qu'on enseignera la connaissance? C'est lui qui gouverne les êtres célestes. Job 21, 22. Qui a connu l'Esprit du Seigneur ou qui a été son conseiller? Romains 11, 34. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence est sans limite. Psaume 147, 5. Contrairement à Dieu, nous acquérons la connaissance par l'apprentissage. Nous prenons l'information de l'extérieur de nous-mêmes, une chose après l'autre, et cette information s'ajoute à notre base de connaissances. Nous en savons beaucoup plus que nous n'en sommes conscients à un moment donné, car la plupart de ce que nous savons se trouve dans notre subconscient. Et quand nous en avons besoin, nous y accédons mentalement et ça nous vient à l'esprit. La connaissance de Dieu est différente en ce que sa connaissance est toujours devant lui. Il n'a pas besoin de s'en souvenir. Dieu sait toutes choses et est toujours conscient de tout ce qu'il sait. Ainsi, il n'a pas besoin d'appeler des informations de son subconscient. Sa connaissance est parfaite. Il sait tout. Son savoir et sa façon de penser transcendent complètement les nôtres. En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre, de même mes voix sont bien au-dessus de vos voix, et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. Ésaïe 55, 8 et 9. Quelle profondeur ont la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu! Que ses jugements sont insondables, et ses voies impénétrables. Romains 11, 33. Le théologien Kenneth Keasley dit « Puisque Dieu est omniscient, il connaît toutes choses de manière innée, ce qui signifie qu'il ne passe pas par les processus mentaux que les êtres finis font pour comprendre les choses. Dieu n'apprend jamais et les choses ne lui viennent pas à l'esprit. Il connaît déjà toutes les vérités. Le fait que Dieu soit omniscient ne signifie pas seulement que Dieu est infiniment plus instruit que nous, mais que sa connaissance est d'une qualité et d'un type différent. Les théologiens Lewis et Desmarais expriment ainsi l'omniscience de Dieu. Transcendante à tout le reste, les capacités intellectuelles de Dieu sont illimitées dans l'espace, le temps, l'énergie, les lois, les choses ou les personnes. William Lane Craig en parle ainsi. Supposons qu'il y avait deux êtres, qui est chacun la connaissance de soi appropriée, ainsi que toute la connaissance propositionnelle de l'univers. Mais supposons que le second être n'ait acquis sa connaissance que parce que le premier lui a dit tout ce que le premier savait naturellement. Maintenant, je pense clairement que nous serions d'accord pour dire que le deuxième être, qui devait être instruit, qui devait être informé de tout, n'est pas aussi intellectuellement excellent ou aussi grand que le premier être. Ainsi Dieu, puisqu'il n'a pas à apprendre quoi que ce soit de qui que ce soit, mais qu'ils connaissent simplement toute la vérité de manière innée et d'une excellence intellectuelle maximale. La connaissance que Dieu a de lui-même et de ses créatures. Dieu n'est pas seulement une donnée de connaissance, comme un ordinateur géant qui contiendrait toutes les informations de l'univers, mais n'a aucune connaissance de par lui-même et ne peut donc pas agir en connaissance de cause sur les informations dont il dispose. Il est bien plus que cela. Dieu sait tout sur lui-même, comme Paul l'a laissé entendre. Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé par son esprit, car l'esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. En effet, qui parmi les hommes connaît les pensées de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne peut connaître les pensées de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. 1 Corinthiens 2, 10 et 11. Il connaît aussi toutes choses en dehors de lui-même, tout sur l'univers et sa création, comme l'exprime sa connaissance de la mort de chaque moineau et du nombre de cheveux de la tête de chacun. Rien de ce qui est créé ne lui est caché. Il sait tout ce qui existe et tout ce qui se passe. Ne vend-on pas deux moineaux pour une petite pièce? Cependant, pas un ne tombe par terre sans l'accord de votre Père. Même vos cheveux sont tous comptés. Matthieu 10, 29 à 30. Aucune créature n'est cachée devant lui. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Hébreux 4, 13. Car il voit jusqu'aux extrémités de la terre, il aperçoit tout sous le ciel. Job 28, 24. Il sait tout sur tout le monde, passé, présent et futur. Éternel, tu m'examines, tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu discernes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et toutes mes voies te sont familières. La parole n'est pas encore sur ma langue que déjà, Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une telle connaissance est trop extraordinaire pour moi. Elle est trop élevée pour que je puisse l'atteindre. Seigneur, tu m'as fouillé et tu m'as connu. Psaume 139, 1 à 6. Le passage précédent exprime qu'il sait ce que nous allons dire avant de le dire. Avant même qu'une personne ne naisse, Dieu sait tout de sa vie, y compris combien de temps chaque personne vivra. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe et tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'un seul d'entre eux n'existe. Psaume 139, 13 à 16. Dieu connaît toutes nos actions et tous nos actes. L'Éternel regarde du haut du ciel, il voit tous les hommes. Du lieu où il habite, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui a façonné leur cœur à tous, il est attentif à toutes leurs actions. Psaume 33, 13 à 15. En effet, Dieu est attentif à la conduite de l'homme. Il voit tous ses pas. Job 34, 21. Les yeux de l'Éternel sont partout, observant les méchants autant que les bons. Proverbe 15, 3. Ô Dieu, tu connais ma folie et mes fautes ne te sont pas cachées. Psaume 69, 5. Dieu ne voit-il pas ma conduite? Ne compte-t-il pas tous mes pas? Job 31, 4. Je respecte tes décrets et tes instructions. Oui, toutes mes voies sont devant toi. Psaume 119, 168. En plus de connaître nos actions, Dieu connaît aussi nos intentions. La connaissance qu'il a de nous ne se limite pas à nos actions extérieures. Il connaît les raisons pour lesquelles nous faisons ce que nous faisons. Il connaît les pensées les plus profondes de nos cœurs. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel 16, 7. Écoute-le du haut du ciel, de l'endroit où tu résides, et pardonne-lui. Agis et donne à chacun ce que mérite sa conduite, puisque tu connais le cœur de chacun. Oui, toi seul connais le cœur de tous les hommes. 1 Rois 8, 39. Jésus leur dit, « Vous, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît votre cœur. » Luc 16, 15. Moi, l'Éternel, j'explore le cœur. J'examine les reins pour traiter chacun conformément à sa conduite, au fruit de ses agissements. Jérémie 17, 10. Le séjour des morts et le gouffre de perdition sont devant l'Éternel. C'est d'autant plus le cas du cœur des hommes. Proverbe 15, 11. Toutes les voies d'un homme sont pures à ses yeux, mais celui qui évalue les dispositions de l'esprit, c'est l'Éternel. Proverbe 16, 2. Implication et application. La connaissance de Dieu est infinie, et cette connaissance infinie inclut la connaissance de chaque personne, à la fois de ce qui est dans son cœur et ce qu'elle fait. Cette connaissance fait que le jugement de Dieu sur les gens est vrai et exact. Rien ne lui est caché. Les individus peuvent être capables de tromper les autres, ou même eux-mêmes, quant à leurs actes ou leurs intentions, mais devant Dieu, tout est mis à nu. Une telle connaissance est liée à la vertu et à la justice de Dieu. Il juge avec justice parce qu'il a une parfaite connaissance des actions et des intentions des gens, du bien et du mal. Louis et Desmarais expriment ainsi la connaissance infinie de Dieu. Dieu connaît toute l'énergie de la nature, la matière, les lois, les animaux et les esprits finis. Dieu connaît aussi les vivants. Il connaît non seulement leurs caractéristiques physiques, mais aussi leurs pensées intérieures, leurs luttes, leurs motifs, leurs décisions volontaires et l'expression de ses déterminations en mots, actes, événements et tournures. Dieu sait tout. Dieu ne connaît pas seulement le passé et le présent, il connaît aussi l'avenir. Le livre d'Ésaïe exprime que l'une des caractéristiques du vrai Dieu est sa connaissance complète de l'avenir et sa capacité à faire connaître les événements futurs. En effet, c'est moi qui suis Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Je suis Dieu et personne n'est comparable à moi. Je révèle dès le début ce qui doit arriver et longtemps à l'avance, ce qui n'est pas encore mis en œuvre. Je dis, mon projet se réalisera et je mettrai en œuvre tout ce que je désire. Ésaïe 46, 9 à 10. Qui a annoncé cela par le passé? Qui l'a révélé depuis longtemps? N'est-ce pas moi l'Éternel? Il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Ésaïe 45, 21. Depuis longtemps, j'ai révélé les premiers événements. Ils sont sortis de ma bouche et je les ai annoncés. Soudain, j'ai agi et ils se sont produits. Sachant que tu es endurci, que ton cou est une barre de fer et que tu as un front en bronze, je t'ai révélé depuis longtemps ces événements. Je te les ai annoncés avant qu'ils ne se produisent, afin que tu ne dises pas « c'est mon idole qui les a faits, c'est ma sculpture sacrée ou ma statue en métal fondu qui les a ordonnés ». Tu as bien entendu tout cela, constate-le. N'allez-vous pas l'avouer? Désormais, je t'annonce des choses nouvelles, cachées, qui te sont inconnues. Ésaïe 48, 3 à 6. Jésus incarné a aussi parlé des choses à venir quand il a dit à ses disciples qu'il allait être livré entre les mains de ceux qui allaient le tuer et qu'il ressusciterait. Quand il a dit à Pierre d'aller à la mer et de prendre un poisson pour payer l'impôt. Quand il a déclaré que Judas le trahirait et que les disciples seraient chassés des synagogues et seraient persécutés et tués. Car il enseignait ses disciples et il leur disait, « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir et 3 jours après avoir été mis à mort, il ressuscitera. » Marc 9, 31. Cependant, pour ne pas les choquer, va au lac, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras de l'argent. Prends-le et donne-le-leur pour moi et pour toi. Matthieu 17, 27. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me trahira. » Il devint tout triste et lui dit l'un après l'autre, « Est-ce moi ?» Il leur répondit, « C'est l'un des 12, celui qui met la main dans le plat avec moi. » Marc 14, 18 à 20. On vous exclura des synagogues et même leur vient, où tous ceux qui vous feront mourir croiront offrir un culte à Dieu. Jean 16, 2. Connaissance hypothétique ou moyenne. Le thème théologique pour exprimer que Dieu connaît tout ce qui se passe, passé, présent et futur, ainsi que les pensées et les intentions des cœurs des êtres humains, c'est connaître tout ce qui est réel. Dieu sait tout ce qui est réel. Dieu sait aussi tout ce qui est possible, ce qui signifie qu'il sait des choses qui arriveraient ou pourraient arriver dans certaines circonstances, mais n'arrivent pas. des choses qui sont conditionnellement possibles. Certains appellent cela des connaissances hypothétiques. C'est le cas par exemple lorsque David fuyait Saül. À un moment donné, on lui a dit que les Philistins combattaient contre Keila. Alors il a interrogé le Seigneur qui lui a dit de combattre les Philistins et de sauver Keila. David et ses hommes le firent et sauvèrent les habitants de Keila. Saül fut informé de l'arrivée de David à Keila et il se dit « Dieu le livre entre mes mains car il est venu s'enfermer dans une ville munie de portes et de verrous. » 1 Samuel 23:7. Saül appela son peuple à la guerre pour assiéger David et ses hommes. Quand David entendit cela, il pria. Puis David dit « Éternel, Dieu d'Israël, moi ton serviteur, j'apprends que Saül veut venir à Keila pour détruire cette ville à cause de moi. Les habitants de Keila me livreront-ils entre ses mains ? Saül descendra-t-il, conformément à ce que ton serviteur a appris ? Éternel Dieu d'Israël, veuille le révéler à ton serviteur. » L'Éternel répondit, « Il descendra. » David répéta, « Les habitants de Keila me livreront-ils, ainsi que mes hommes, entre les mains de Saül ? » Et l'Éternel répondit, « Ils te livreront entre ses mains. » Alors David se leva avec ses hommes, au nombre d'environ 600. Ils sortirent de Keila et s'en allèrent où ils purent. Informé que David s'était sauvé de Keila, Saül renonça à son expédition. 1 Samuel 23, 10 à 13. Dieu savait et révéla à David ce qui arriverait si David et ses hommes restaient à Keila. Il savait que dans cette situation, les hommes de Keila livreraient David à Saül. Cela ne s'est pas produit parce que David a quitté Keila. Mais s'il ne l'a pas fait, alors il aurait été livré. Un autre exemple de Dieu sachant tout ce qui est possible, c'est lorsque Jésus a dénoncé les villes de Chorazin, Bethsaïde et Capharnaüm parce qu'elles ne se sont pas repenties après qu'il eut accompli tant de miracles dans ces villes. Il a dit « Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles accomplis au milieu de vous l'avaient été dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps que leurs habitants se seraient repentis, habillés d'un sac et assis dans la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, le jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel ? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts, car si les miracles accomplis au milieu de toi l'avaient été dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. » Matthieu 11, 21-23. Jésus disait que si les miracles qu'il avaient été accomplis à Tyr, Sidon et Sodome, ils se seraient repentis, et que Sodome serait encore debout. Bien sûr, les miracles et les œuvres puissantes que Jésus a faites n'ont pas été faits à Tyr, Sidon ou Sodome. Cependant, Dieu sait ce qui se serait passé dans ces villes si la situation avait été différente. Ces exemples montrent que Dieu sait non seulement ce qui se passe et ce qui se passera, mais aussi ce qui se passerait dans des situations où d'autres facteurs auraient été en jeu. Il sait tout ce qui est réel et tout ce qui est possible. Il a des connaissances hypothétiques qui sont aussi connues sous le nom de connaissances intermédiaires. Wayne Grudem déclare « Le fait que Dieu sait tout ce qui est possible peut aussi être déduit de la pleine connaissance que Dieu a de lui-même. Si Dieu se connaît pleinement lui-même, il sait tout ce qu'il est capable de faire, ce qui inclut tout ce qui est possible. C'est fantastique. Dieu a créé un univers incroyablement complexe et varié. Mais il y a des milliers et des milliers d'autres variations ou sortes de choses que Dieu aurait pu créer, mais qu'il n'a pas fait. La connaissance infinie de Dieu comprend une connaissance détaillée de ce qu'aurait été chacune de ses autres créations possibles et de ce qui se serait passé dans chacune d'elles. Une telle connaissance est trop extraordinaire pour moi. Elle est trop élevée pour que je puisse l'atteindre. » Psaume 139, 6. Car de même que les cieux sont plus élevés que la terre, de même mes voix sont plus élevées que vos voix et mes pensées plus élevées que vos pensées. Ésaïe 55, 9. William Lane Craig donne une illustration utile de la connaissance hypothétique ou moyenne. Je pense que l'une des plus grandes illustrations de cela est l'histoire de Charles Dickens, The Christmas Carol, un conte de Noël, où Scrooge est confronté à l'esprit de Noël qui reste à venir. L'esprit montre à Scrooge toutes ces choses horribles, la mort du petit Tim, la tombe de Scrooge. Scrooge est si ébranlé par ses visions, ses ombres, qu'il tombe au pied de l'esprit et dit « Dis-moi, esprit, ces ombres sont-elles les ombres des choses à venir ou seulement de celles qui pourraient venir ?» Ce que l'esprit montrait à Scrooge n'était pas l'ombre des choses à venir. Nous savons à la fin de l'histoire que Petit Tim ne meurt pas, que Scrooge se repent. Donc l'esprit ne montrait pas à Scrooge les ombres des choses à venir. Il ne lui montrait pas l'avenir, c'est clair. Mais il ne montrait pas non plus à Scrooge ce qui pourrait arriver. Il ne montrait pas uniquement à Scrooge des possibilités. Je veux dire, tout est possible. Scrooge aurait pu ouvrir un magasin de fleurs à Covent Garden, c'est possible. Ce que l'esprit montrait à Scrooge, c'était une connaissance hypothétique de ce qui arriverait si Scrooge ne se repentait pas. C'est ce qu'il lui donnait. Il ne lui donnait pas la préconnaissance de l'avenir, mais plutôt l'esprit lui transmettait cette connaissance hypothétique de ce qui arriverait si Scrooge ne se repentait pas. William Lee Craig explique cela en plus de détails. Plus en détail. Dans la terminologie philosophique, l'esprit révélait à Scrooge un peu de connaissances contrefactuelles. Les contrefactuelles sont des déclarations conditionnelles au subjonctif. Par exemple, si j'étais riche, j'achèterais une Mercedes. Si tu lui demandais, elle dirait oui. Les déclarations contrefactuelles constituent une part énorme et significative de notre langage ordinaire et sont une partie indispensable de notre prise de décision. Par exemple, si je m'en vais dans les bouchons, je n'y arriverai pas. Il est clair que les décisions de vie ou de mort sont prises quotidiennement sur la base de la vérité présumée de déclarations contrefactuelles. L'omniscience de Dieu, comme d'autres attributs de Dieu, n'est pas complètement compréhensible pour notre compréhension humaine. Ses pensées sont plus élevées que les nôtres, comme on pourrait s'y attendre, puisqu'il est l'être infini, celui qui a créé le monde et tout ce qu'il contient, qui habite dans l'éternité, qui connaît le passé, le présent et le futur. L'article suivant sur l'omniscience de Dieu traitera de la question du libre arbitre de l'homme et de son fonctionnement par rapport à l'omniscience de Dieu. Le fait que Dieu connaisse les choix que nous ferons, chacun, dans l'avenir, signifie-t-il que nous devons faire ces choix? L'omniscience de Dieu fait-elle disparaître le libre arbitre de l'homme? Suite dans la deuxième partie.